Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 70 ans, le 5 avril 1951, Julius et Ethel Rosenberg étaient condamnés à mort pour avoir donné les secrets de la bombe atomique aux soviétiques. Ils seront exécutés à quelques minutes d'intervalle le 19 juin 1953 sur la chaise électrique du pénitencier de Sing Sing. Un procès qui aura un retentissement dans le monde entier. La culpabilité du couple Rosenberg et leur importance dans l'obtention de l'arme nucléaire par l'URSS étant encore 70 ans après, sujet à caution. Nous sommes en compagnie d'André Caspi, historien, auteur du livre « Des espions ordinaires, l'affaire Rosenberg », publié chez Larousse. André Caspi, bonjour.
Bonjour.
On va tout d'abord parler des époux Rosenberg. Qui étaient-ils ?
C'est très simple. Julius Rosenberg était un ingénieur en électricité. Sa femme n'avait pas une fonction particulière, sauf qu'elle était secrétaire d'actiographe. Ils ont travaillé l'un et l'autre pendant un temps dans l'administration qui s'occupait de la recherche nucléaire. Ce sont des gens simples qui habitent New York et qui ont cette caractéristique d'être juifs, mais être juif et américain, c'est quelque chose qui est très courant à cette époque comme à la nôtre. Et tout le procès Rosenberg se déroule finalement dans les milieux juifs de New York, aussi bien du côté de la défense que du côté de l'accusation. Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que ces époux qui sont accusés d'espionnage ne sont pas, comme on pourrait l'imaginer, une sorte de James Bond. C'est pas du tout le cas. Ce sont des gens très modestes qui vivent dans un petit appartement avec leurs deux enfants et qui semblent tout à fait anodins, je dirais presque anonymes. Et c'est peut-être cela qui constitue la principale source de suspicion à leur encontre.
Alors justement, celui qui est à l'origine de la suspicion à leur encontre, c'est David Greenglass, le frère d'Ethel Rosenberg, qui est arrêté le 15 juin 1950.
Oui, alors le frère d'Ethel Rosenberg a travaillé comme Julius Rosenberg dans l'administration qui faisait de la recherche nucléaire, c'est-à-dire pendant la guerre, jusqu'en 1945. Et c'est à ce moment-là que David Greenglass prétend que Julius Rosenberg lui a demandé des secrets atomiques et que ces secrets atomiques auraient permis, en somme, de construire la bombe atomique, non pas simplement pour les Américains, mais surtout pour les Soviétiques. Autrement dit, le problème qui se pose, c'est de savoir s'il y a eu un espionnage ou non, et si les époux Rosenberg, comme les époux Greenglass, ont bien été les agents de l'URSS, et ce qui aurait permis, en somme, à l'URSS d'acquérir la bombe atomique.
Alors justement, David Greenglass, il reconnaît avoir travaillé pour un espion soviétique, Harry Gold, ce qui cause l'arrestation de Julius Rosenberg, son beau-frère.
Oui, mais c'est-à-dire que David Greenglass plaide coupable immédiatement, ce qui est un gros avantage dans le système judiciaire américain, c'est-à-dire que cela provoque l'indulgence de la part du jury et la certitude qu'il ne sera certainement pas condamné au maximum. Alors, pour plaider l'indulgence, il faut qu'il désigne le véritable coupable. Et c'est pour ça que ça donne à l'affaire une dimension, disons, supplémentaire. C'est le beau-frère qui accuse Julius Rosenberg et qui accuse sa sœur, c'est-à-dire Ethel Rosenberg, l'épouse de Julius. Ce qui veut dire que c'est une affaire de famille, c'est une affaire à l'intérieur du petit monde communiste des États-Unis, et tout cela se répercute sur les relations atomiques, pourrait-on dire, oui, ou en tout cas les relations scientifiques entre les États-Unis et l'Union soviétique.
Alors justement, André Caspi, le 15 juillet, David Greenglass fait des aveux complets, le 17, Julius Rosenberg est arrêté, et le 19, John Edgar Hoover, le grand patron du FBI, envoyait une note confidentielle au ministre de la Justice, McGrath, lui faisant part de sa tactique, je cite, « Il n'y a pas de doute que si Julius Rosenberg nous fournit des détails sur ses activités d'espionnage, nous serons en mesure d'inculper d'autres individus. De ce point de vue, la mise en accusation de sa femme pourrait nous servir de levier. » Et patatras, le 11 août, Ethel Rosenberg est arrêtée.
Oui, alors, l'attitude de J. Edgar Hoover est quand même très simple. Il est le patron du FBI, c'est-à-dire le patron du contre-espionnage. Et il a pour but d'arrêter les espions. C'est sa fonction.
C'est son métier, oui.
C'est son métier. Il est en poste depuis 1924, hein, je précise bien. Et non seulement depuis 1924, mais il restera en poste jusqu'à sa mort en 1972. C'est donc une très très longue carrière. Et Hoover a pour principe, évidemment, de servir l'État fédéral et notamment son supérieur hiérarchique, qui est le ministre de la Justice. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Alors, le but de Hoover, c'est de montrer qu'il y a un complot à l'intérieur même de la société américaine, que ce complot explique que l'Union soviétique acquiert la bombe atomique et que, bien entendu, il faut rechercher les coupables. Mais si Hoover tient ce langage, c'est parce qu'il y a eu auparavant des enquêtes sur les fuites qui ont pu servir l'URSS, qui ont desservi, qui ont trahi les États-Unis, et depuis 1947, que ce soit au Congrès ou ailleurs, il y a des enquêtes qui se succèdent pour essayer de trouver qui sont les espions, qui en somme peut être coupable d'avoir transmis les secrets de la bombe atomique à cette puissance extrêmement dangereuse qui est devenue en somme l'adversaire numéro un des États-Unis, et cette puissance, c'est l'Union soviétique. Alors, dans l'esprit de Hoover, c'est très simple. Puisque l'on est communiste, c'est que l'on approuve le régime de l'Union soviétique, et si l'on approuve le régime de l'Union soviétique, c'est que l'on est prêt à trahir les États-Unis. Donc, si les Rosenberg ont passé des secrets atomiques à l'URSS, c'est tout simplement parce que ils ont des affinités très très fortes avec le régime de Staline et qu'en conséquence, ce sont des traîtres aux États-Unis.
Alors justement, les Rosenberg sont inculpés. Le procureur est redoutable, Roy Cohn, McCarthyste convaincu, qui a des liens, on peut dire, un peu incestueux avec le juge, qui est le juge Kaufman.
Oui, alors, Roy Cohn n'est pas le procureur, mais c'est le procureur adjoint.
Hein. Adjoint, exact.
Le procureur, c'est un certain Irving Seppel, qui est un homme redoutable, lui aussi, encore plus redoutable que Roy Cohn, parce qu'il a plus de pouvoir que Roy Cohn. Alors, Roy Cohn, en effet, qui a une très très longue carrière, il est mort il y a quelques années seulement, Roy Cohn fait partie de ces gens qui sont à l'extrême droite, hein, dans la politique américaine et qui voient des traîtres partout. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que il n'y a pas dans ce procès la moindre trace d'antisémitisme. Et en même temps, tous les participants à ce procès sont des juifs. Rosenberg est juif, Roy Cohn est juif, le juge Kaufman est juif, Seipel, le procureur, est juif. C'est-à-dire qu'au fond, c'est tout un milieu new-yorkais qui est marqué par la présence juive, et cette présence juive se divise brutalement entre ceux qui ont des penchants du côté de l'Union soviétique et ceux qui, au contraire, sont les adversaires déterminés du communisme.
Mais c'était un procès politique, le procès des époux Rosenberg, puisque la sentence était a priori décidée à l'avance.
Alors, est-ce que la sentence était décidée à l'avance? Oui et non, hein, parce que, vous savez, un procès américain, on en a la preuve aujourd'hui avec des procès qui se déroulent actuellement aux États-Unis, c'est une affaire très longue. C'est-à-dire que le procureur prononce l'acte d'accusation, et puis il y a la défense qui répond, et puis il y a les témoins qui défilent. Bref, c'est quelque chose de très long. Et à la fin de tout cela, c'est le jury qui, à l'unanimité des 12 membres, doit décider ou non s'il y aura culpabilité. Et s'il y a culpabilité, à ce moment-là, c'est le juge, c'est-à-dire Kaufman, qui dit, ben, compte tenu de la culpabilité, voilà la sentence que je rends. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que le procès soit décidé à l'avance, mais il est évident que si l'on peut montrer que les époux Rosenberg sont des espions, le châtiment des espions s'impose, et ce châtiment, c'est la peine de mort.
Alors, dernière question, André Caspi, les Rosenberg coupables ou innocents ?
Écoutez, je pense que Julius Rosenberg a certainement passé quelques secrets, mais vous savez, c'était très peu de choses ce qu'il a fait. Si l'on considère qu'au contraire, il y a eu en effet un réseau d'espionnage aux États-Unis en faveur de l'Union soviétique. Et ce réseau d'espionnage était mené par un savant de nationalité anglaise mais d'origine allemande qui s'appelait Klaus Fuchs. Klaus Fuchs, par la suite, a échappé à la justice, s'est réfugié de l'autre côté du rideau de fer, a vécu une vie tranquille sous le régime soviétique et n'a pas été pris. Lui, il a certainement participé à ce réseau d'espionnage, il l'a certainement animé. Julius Rosenberg, c'était au niveau le plus bas, et vraisemblablement, s'il a donné quelques informations, c'était des informations très secondaires qui ne justifiaient certainement pas la peine de mort. Je précise d'ailleurs que dans cette période qui est marquée par le maccartisme, mais McCarthy n'a rien à voir avec le procès Rosenberg, dans cette période-là, il n'y a eu qu'une seule condamnation, deux condamnations à mort,
le couple
Rosenberg. La condamnation de Julius et la condamnation d'Ethel Rosenberg.
Merci beaucoup André Caspi, historien, auteur du livre « Des espions ordinaires, l'affaire Rosenberg » publié chez Larousse. C'était il y a 70 ans, 70 ans déjà. Dans la prochaine demi-heure, le menu, le livre du dimanche, un livre génial, « Coccinelle » de Florence Belkacem. Juste après, la sélection musicale de Bruno Dubois, et on parlera enfin du renouvellement de l'agrément d'Anticor à 1h30 de son expiration le week-end de Pâques. Restez bien avec nous sur Sud Radio.